I think we're about to start. I'm going to let my colleagues, we're just going to welcome you. So first, Sophie Bouvier, which is the head of of the House of the Mediterranean, is going to welcome you. Then Catherine Miller, which is the director of the Institute for IREMAM. Well, she'll explain to you the full meaning of that word. And then I'll welcome you as the head of the Institute of African Studies.
So three words in English. Welcome to you, but I will go on in French. C'est avec un grand plaisir que j'inaugure je vous souhaite la bienvenue au sein de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme pour votre colloque sur les appropriations d'espace en contexte colonial et impérial. Je vais d'abord vous donner quelques mots de présentation de ce que nous appelons la MMSH, la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, qui va accueillir vos travaux. Cette maison appartient à un réseau, le réseau national des maisons des sciences de l'homme, et est à la fois un campus de recherche et un lieu de formation interdisciplinaire en sciences humaines et sociales spécialisé sur le monde méditerranéen. C'est sa spécificité dans le réseau des maisons des sciences de l'homme. C'est un centre de recherche car elle héberge depuis 1997, nous allons fêter ses 20 ans cette année, enfin sur 2 ans, 11 unités mixtes de recherche et deux unités de service et de recherche, soit environ 350 personnels titulaires ou associés, spécialisés sur le monde méditerranéen dans tous ses champs, des sciences humaines et sociales, donc à la fois des anthropologues, des archéologues, des géographes, des historiens d'art, des socialistes, des sociologues, des urbanistes, et ce, de la préhistoire à l'époque contemporaine, depuis l'Espagne jusqu'au monde arabe et sémitique. Donc, vous voyez, un vaste éventail à la fois de compétences et d'aires culturelles. Et puis, un petit pousset chez nous sur lequel je reviendrai. Le site abrite également l'école doctorale 355, Espace Culture et Société, qui rassemble 350 doctorants environ, un peu moins cette année. Nous faisons de la sélection pour qu'ils fassent leur doctorat en 4 ans. Donc, il y en a de moins en moins, qui sont répartis dans 22 laboratoires d'accueil, dont les unités de la MMSH. Alors, cette maison, depuis mars 2011, elle assure aussi la coordination scientifique du laboratoire d'excellence LabExMed, là aussi spécialisé dans les sciences humaines et sociales de la Méditerranée, au cœur de l'interdisciplinarité, qui est constantes de notre travail. Et on y trouve à la fois les équipes de la MMSH, mais aussi 5 autres unités mixtes du périmètre d'Aix-Marseille Université. Alors, cette maison, qui est une structure fédérative mixte, à la fois Aix-Marseille Université et CNRS, soutient les activités des unités de recherche qu'elle fédère par des équipements communs, des outils mutualisés, tout en favorisant, c'est son aire de recherche, la promotion d'une interdisciplinarité active en développant des programmes de recherche transversaux ainsi que des programmes spécifiques dont est issu justement le colloque auquel vous allez participer ces 3 jours. Par son statut d'unité de service, elle appuie les activités des équipes en mettant à leur disposition des équipements communs, des outils mutualisés, des moyens logistiques, techniques, administratifs et scientifiques, dont un service informatique, un service des publications, en mettant en place des actions de communication et de valorisation. Les ressources documentaires sont rassemblées sur le site, dont 4 bibliothèques spécialisées. Vous en connaissez peut-être une en particulier, qui est la médiathèque, mais il y en a 3 autres, plutôt sur les périodes anciennes de la Méditerranée. Et elle aide également ses chercheurs dans le montage des programmes européens par le biais d'une cellule spécifique. Donc un ensemble d'équipements et d'outils mutualisés, un ensemble de pôles de compétences également, techniques et numériques essentiellement, avec un pôle image et son dédié au traitement de l'image et des archives sonores en partenariat avec l'Institut national de l'audiovisuel, auquel vous pouvez très facilement avoir accès et vous pouvez travailler sur les documents qui sont justement accessibles à la médiathèque. Et également un pôle espace représentation usage consacré à l'analyse et à l'utilisation des documents cartographiques par les chercheurs en sciences sociales. Et enfin, des plateformes dédiées à la documentation méditerranéenne, par exemple la plateforme e-médiathèque, constituée de collections électroniques de références en sciences humaines sur la Méditerranée, et depuis l'année dernière, la Cité de la Méditerranée, ce qu'on appelle CINUMED, qui est une plateforme pour la mise en commun et le partage des savoirs dans le domaine des études méditerranéennes en sciences humaines et sociales, et qui rassemble tout type de documents, à la fois des documents de chercheurs, des documents assez plus médiatiques, des documents publiés ou de la littérature grise. Alors, la MMSH, c'est ça en tant que service, mais c'est aussi une structure de recherche qui soutient des programmes et des séminaires transversaux qui visent à renouveler les questions, les terrains, les méthodes. Et séminaires et programmes qui sont axés sur des thématiques déterminées dans un contrat qui est celui de l'HCERS jusqu'à l'année prochaine aujourd'hui, enfin, pour l'instant, comme les villes, les territoires et les paysages, la mer et les littoraux, le fait religieux aussi, une thématique importante, normes et régulations sociales, ainsi que circulations et transferts, échanges matériels et immatériels. Donc ces programmes scientifiques qui sont liés aussi à la proximité géographique des équipes dans un même lieu qui nous permet d'échanger et de construire justement des programmes, ces programmes ont contribué à fédérer scientifiquement et de manière conviviale les équipes de la maison, comme le souligne votre colloque. Dans ce contexte, j'ai d'autant plus de plaisir à introduire votre rencontre qu'il montre comment fonctionnent précisément les relations interlaboratoires de la maison. L'Institut de recherche et d'études sur le monde arabo-musulman, pilier ancien de la maison par ses champs de travail, par sa longue présence aussi sur le territoire aixois, l'IREMAM croise depuis quelques années les routes de l'Institut des mondes africains, essentiellement installé à Paris, on pourrait dire le petit poussé chez nous, le petit poussé qui grandit chaque année grâce à la présence d'un certain nombre d'entre vous, et également présence qui s'explique aussi, je pense, par la présence des anomes qui ne sont pas complètement étrangère à ce rattachement d'un certain nombre d'entre vous ici. Et cette collaboration permet aujourd'hui la tenue de ce beau colloque qui va vous impliquer pendant les trois prochaines journées. Alors, je dois vous avouer, je l'avais avoué Didier Guignard, que quand j'ai vu arriver le thème du colloque, j'ai espéré un moment y participer, puisque le synopsis me laissait penser qu'on parlerait de colonisation sur le long terme. Or, moi, je travaille sur je suis une antiquisante, historienne et archéologue. Je travaille sur la Méditerranée au premier millénaire avant Jésus-Christ et sur le phénomène de la colonisation grecque. Donc, je me suis dit, chouette, on va pouvoir confronter les thématiques, les approches, les méthodes. Et effectivement, j'aborde, moi, pour ma période, dans un contexte complètement différent et même surtout un contexte politique très, très différent, les relations complexes entre les deux types de populations, les Grecs et les populations, alors on disait indigènes, on disait autochtones, aujourd'hui on essaie de dire locales plus qu'indigènes, ces relations qui sont à la fois pacifiques et hostiles, trop souvent présentées par les sources antiques comme des relations hostiles, alors qu'en réalité, elles sont essentiellement faites d'échanges commerciaux, mais aussi implications culturelles, construction d'identités spécifiques dans des régions différentes où les Grecs se sont installés. Les Grecs du monde égéen et de la Grèce balkanique ne sont pas les Grecs qu'on trouve en Sicile, ne sont pas les Grecs qu'on trouve à Marseille, ne sont pas non plus les Grecs que l'on trouve en mer Noire. Et tout cela, c'est dû justement à cette imbrication des cultures. Mais ce sera pour une autre fois. Alors, je vous souhaite à tous de bons échanges et je l'espère une belle publication qui permettra à l'ensemble de la communauté scientifique et civile de profiter de vos travaux. Merci et bon travail.
Merci beaucoup. Catherine, on te donne la parole.
Bonjour. So thank you very much for all of you to come to Aix-en-Provence. I will speak in French also, I'm sorry. En tant que directrice de l'IREMAM, je suis évidemment, je le dis à chaque fois, mais là je le suis un peu plus encore que d'habitude, il y a des degrés dans mon contentement. Je suis vraiment très très contente de voir se réaliser ce colloque international sur appropriation d'espace en contexte colonial et impérial. Depuis de très très nombreuses années à l'IREMAM, le thème de l'accès à la propriété a été un thème très développé au sein de notre institution par les historiens, que ce soit pendant la période médiévale, la période ottomane ou la période moderne. Et depuis quelques années, grâce à l'arrivée de nombreux, de jeunes collègues, enfin de jeunes, pas si jeunes, mais quand même de, disons, l'arrivée depuis 4, 5, 6 ans, de collègues, ces thématiques se sont ouvertes d'abord sur la période coloniale et en particulier en fait sur ce qui est supposé être le domaine aréal de l'IREMAM, c'est-à-dire le monde de, au départ surtout méditerranéen, arabo-méditerranéen. Donc c'était des travaux qui se portaient sur l'Algérie, le Maroc, la Palestine, la Syrie ou l'Égypte. Donc on restait en Méditerranée, ce qui est l'excellence et la spécificité de cette maison. Et je pense que ce colloque qui suit un séminaire qui s'est tenu depuis maintenant 2, 3 ou 4 ans et toute une réflexion justement de ses collègues représente une ouverture très significative et je pense extrêmement importante avec cette volonté de sortir d'une dimension géographique purement sud-méditerranéenne, de s'ouvrir. Donc d'abord, je pense, ça a été plus un peu vers l'Afrique grâce à la collaboration avec l'IMAF, mais là maintenant, pendant ce colloque, à une vraie dimension mondiale, puisque j'ai vu qu'il y avait des communications sur les Caraïbes, la Russie, l'Europe, l'Afrique, l'Asie, les États-Unis, etc. Donc ça, je pense que pour nous, qui sommes dans une structure et dans une université où on nous dit la Méditerranée, la Méditerranée, la Méditerranée, on est quand même très content de montrer qu'on peut aussi sortir de la Méditerranée et surtout faire des liens entre le Méditerranée et le reste du monde. Je pense que ça, c'est vraiment extrêmement important. L'autre ouverture qui est importante et qui existe, c'est justement de croiser histoire coloniale et histoire impériale. Ils ne sont pas remontés jusqu'à la très très haute antiquité, mais quand même, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important et qui me semble, je ne suis pas historienne, mais qui me semble témoigner quand même justement d'un renouveau qui a lieu depuis plusieurs années des études coloniales. Hein. Donc vraiment, je pense que ce colloque représente un renouvellement aussi des thématiques de recherche au sein de notre institut depuis quelques années. Je sais aussi qu'il y avait une volonté dans ce colloque justement de ne pas rester qu'entre historiens et d'avoir une ouverture disciplinaire avec des anthropologues ou des sociologues. Je sais que c'est peut-être un peu moins évident que l'ouverture géographique, mais je pense qu'elle va se faire parce qu'elle est importante. Moi, ce qui me semble vraiment le plus important, c'est justement de casser un peu ces barrières aréales. L'Institut de recherche sur le monde arabe et musulman fait partie de ce qu'on appelle un groupement d'intérêts scientifiques qui porte aussi sur le monde musulman. Mais justement, en 2018, nous avons décidé de participer à un autre groupement d'intérêts scientifiques qui est le GIS Afrique, parce qu'il nous... Enfin, personnellement, et je pense que c'est ce que ressentent une bonne partie des gens qui travaillent à l'IREMAM, cette coupure entre ce qui est considéré être l'Afrique et ce qui serait l'Afrique du Nord et le monde arabo-musulman, est une coupure qui n'a plus lieu d'être dans nos disciplines. Donc je remercie beaucoup les collègues de l'IREMAM et de l'IMAF qui ont beaucoup travaillé pour la préparation de ce colloque. Je sais qu'ils ont reçu énormément de résumés et qu'ils ont fait un choix extrêmement sélectif. Et je vois que le programme vraiment pointe ce travail de préparation en amont. Donc, je vous félicite par avance et je vous souhaite vraiment trois bonnes journées de travail.
Merci beaucoup. So, I'll speak in English that we can have people understand how to. I better watch my English though. So I wish to thank Sophie and Catherine for having accepted opening with me. And I would like you all, to thank you all to be here. And I hope we'll share some very fascinating research. I shouldn't say that, but I also hope you've taken enough time to visit this region. It's a very the town is beautiful, but the whole area is beautiful. And there's lots of Greek, Roman archaeological sites that are quite worth visiting, and even Iron Age ones. So I'm addressing you at this table now for two reasons. First, because I'm the head of the African Institute in X, your third host. I'm aware that the French universities and research organizations are very difficult to understand for non-French people. And actually, I can tell you it's very difficult for French people too. I think there's only one person here who understands it to some extent. It's my neighbor. And the rest of us understand it a little bit.
And it has been difficult at the beginning.
I will try, however, to explain to you what IMAF stands for. So it's in French, I'm not going to translate it. Basically, it's a coalition of French universities and research institutions, coalition of lecturers, professors, researchers who are interested in Africa. So among several, there is the university here, Aix-Marseille, and the CNRS, which is also here. We have about 100 researchers and lecturers in the lab. And we cover most fields of social sciences and humanities, but we cover better than others history and anthropology, about Africa, of course. So that's for IMAF. I'm also here because I'm a member of the conference committee. Maybe I should introduce you the other members like that. You'll have an idea who is who. You have Charlotte, which is here. Then you have Aurélia, which is over here. Didier, which is there. Christine, Mehdi, and Iris, and Henry. Cécile Vincenti is not a member of the committee, but she worked very hard to making this happen. And I would like to thank her for all the time she spent in booking and planning and asking for money and other things of that type. So, if you're happy, you can come and tell me. If you're not happy, there are the other members of the committee. I think we have a very old tradition of finding scapegoats in France. And I suggest Charlotte, being the youngest, should be your victim. But don't complain. Though there is a French tradition. If you're French, you have to complain. It's quite well known. So why are we doing this conference? I think there's a word there I never can say in English. It's I can't say it. So I'll have to avoid saying the first word of the title of the conference. It's a bit embarrassing. So appropriation of space in colonial and imperial context. I think the important things there are colonial and imperial. It's actually very difficult to define what colonialism is. It's a very vague, slippery concept. Actually, see, it goes from the Greece to today. It's a very difficult word. However, if we're dealing only with the 19th and 20th century, we can say that colonialism is what Europe, the way Europe has appropriated the rest of the world after the Industrial Revolution. Well, you could find other definitions, I'm aware of that, but it could be said that. So it's the manner in which Europe decides that the world is hers. Not sure. This conference is not about one aspect of colonialism, it's about the essence of colonialism. But studying colonialism is a tricky business. Colonial propaganda has been extremely powerful and effective. We could even say it's an hegemonic discourse. It's still quite alive. When you speak with people with the wider public, or even sometimes with colleagues which are not specialized, you can see how this colonial speech, colonial ideology is everywhere. And it's still very much alive. But those speeches were not made to explain what was going on in the colonies. It was made to justify having colonies. So actually, very deliberately, the true aims of the overseas rulers could be totally opposite to what they were saying publicly. But colonial policies were also extremely ineffective. Why? Because the colonial state was a clumsy, brutal, very ignorant power. It was short of skills, of manpower, of capital. Therefore, it's the policies it was trying to organize to achieve something specific was usually off the target, very much off the target. Not always, but globally, it's not very effective in implementing its policies. So studying colonialism is more like studying projects that have gone astray, and not studying the project itself. It's studying how things go somewhere completely unexpected. Well, there are people who get whatever they want, but it's not an organized Weberian state. So we're studying more side effects than actually ideologically minded policies. They are there, but they usually miss their target. So I want to insist that colonialism has extremely strong disconnections between the discourse, the aims, and the results. It's always the case, but in the colonial setting, it's worse than usual. So this is a problem. This is a problem. So to avoid being trapped by this colonial propaganda, by these colonial policies, which are really usually well-written, very convincing, you have to go to the ground. You need to study colonialism through very small scale. Not very small, small scale. The very wasn't. You can call it historical anthropology if you want, microstoria if you prefer, or something else. The point is, you have to look at the grassroots to figure out what's actually going on. But if you study an object on a small scale, you have a problem because you're only seeing something very small. So that's a drawback. And this conference is here to help us lift our eyes from the small case, to combine both. We have to compare, but it's very difficult to study small scale in China and in India and in America and in France at the same time. Some people may try, but very few, I think, would succeed, though some people can, but I can't. So we need to do both. It's the Italians in the microstory explained that very well also. So we need to change scales. And here I hope we're going to do both. Look on the very small scale and then compare. Widen our vision. So this is basically why we insist on colonialism, on the scale, and on having us all together. And I hope you'll have a great conference. Thank you for listening.